Bien. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Vous savez que on parle de différentes raisons qui nous démontrent. Amen. On appelle ça l'école de la guérison parce qu'on apprend. Amen. Quand on allait à la petite école, on apprenait à compter, on apprenait à écrire. Mais quand on vient à l'église, on apprend à propos de Dieu. Amen. C'est pour ça que Dieu dit, vous connaîtrez la vérité, puis ça va vous rendre libre. On apprend, mais ça l'amène toujours une liberté. Amen. On veut pas être illettré ou ignorant de la parole de Dieu. Amen. Et puis l'école de la guérison, bien, c'est de regarder au travers la parole de Dieu ce que la parole de Dieu dit. Amen. Pendant longtemps, on a cru toutes sortes de choses. Bien, moi, en tout cas, pendant longtemps, aller jusqu'à ce que je connaisse le Seigneur Jésus, je croyais ce que le monde disait. Amen. Que Dieu peut venir comme un voleur, puis tu peux partir n'importe quel temps. Puis écoute, si Dieu il a voulu mettre ça sur toi, il faut que tu l'endures et toutes ces choses-là. Mais quand je suis venue au Seigneur Jésus, puis j'ai commencé à apprendre la parole de Dieu, j'ai vu que j'avais appris de la mauvaise façon. Amen. Et c'est pour ça que c'est important d'aller dans la parole de Dieu, regarder ce que la parole de Dieu dit. Des fois, les gens vont dire, est-ce que vous interprétez ça à votre façon? À l'école biblique où on est allé aux États-Unis, ils nous montraient comment bien discerner la parole de Dieu. On prend jamais un verset en dehors de son contexte. Un verset est écrit d'après le chapitre d'après après le livre, puis le livre doit correspondre avec le restant du livre de la parole de Dieu. Amen. Alors, on regarde la parole de Dieu dans toute sa grandeur. Amen. Et on a commencé, là, à peu près 3 semaines, à donner des exemples de l'Ancien Testament. Et parce que, voyez-vous, le Nouveau Testament est contenu dans l'Ancien. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, on devrait voir des choses qu'il faisait que nous autres, on vit dans le Nouveau Testament. Puis l'Ancien Testament, lui, est expliqué dans le Nouveau. Ça fait que si on veut comprendre l'Ancien Testament, il faut comprendre en premier le Nouveau Testament. Quand on le comprend, on peut aller dans l'Ancien puis voir que le Nouveau est contenu, mais on le comprend parce qu'il est expliqué dans le Nouveau. Amen. Et puis, alors depuis 3 semaines, on va voir des exemples de l'Ancien Testament, parce que Jésus disait lui-même, je pense que c'est dans Jean 5, 9, on peut aller voir, si je ne me trompe pas, Jean 5, verset 38. Jean 5, verset 38, ça dit, Jésus le parlait, puis il dit, « Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. » Il dit, vous sondez les Écritures. Puis on sait que lorsque Jésus parlait, le Nouveau Testament, il n'était pas écrit encore. Donc, il sondait quelle Écriture? Les écrits qu'il y avait de l'Ancien Testament, c'était sur des parchemins. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Il dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Qu'est-ce que Jésus disait? Il disait, quand vous sondez les Écritures, vous devriez me voir. Parce que les Écritures rendent témoignage de moi. Il dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ici, il parlait à des Juifs, puis il leur disait, vous sondez les Écritures, vous voulez avoir la vie éternelle. Ces Écritures-là que vous sondez, ça parle de moi. Jésus lui-même dit que l'Ancien Testament parle de lui. Amen. Alors, c'est ça qu'on va voir dans l'Ancien Testament, les choses qu'il faisait. On a vu différentes cérémonies qu'il faisait. Et puis, ce matin, on va regarder à une des raisons qui nous démontre encore une fois que c'est la volonté de Dieu qu'on soit en santé, guéri sur la terre, amen, et qu'on va aller voir un exemple de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, il faisait des choses, puis c'était toujours une préfiguration. Quand il faisait une cérémonie, on a vu dans les semaines passées, comme exemple, la cérémonie du lépreux. Quand le lépreux, il était guéri, le lépreux, il allait voir le sacrificateur, parce qu'avant ça, il ne pouvait pas se présenter parmi le monde. Il était un lépreux, il était un impur. Mais lorsqu'il s'apercevait qu'il était guéri, il allait voir le sacrificateur sortait, puis il l'examinait. Quand il voyait qu'il était guéri de sa lèpre, il faisait une cérémonie qui démontrait après la guérison qu'il avait reçue. On a vu ça la semaine passée. Il prenait un vase de terre, il faisait couler de l'eau, il prenait deux oiseaux purs, il prenait un des oiseaux purs, puis il l'égorgeait, puis il faisait couler le sang dans l'eau, et puis il prenait après ça l'autre oiseau, et puis pur, puis il le sauçait dans le vase de terre, dans l'eau et le sang, puis relâche libre l'oiseau. Et ça, c'était une préfiguration que Jésus allait venir sur la terre. Il nous laverait avec l'eau de la parole. Son sang serait versé. Puis quand on va se saucer dans la parole de Dieu et dans le sang de Jésus qui nous purifie, on est relâché libre, nous autres aussi. Voyez-vous, on s'aperçoit que dans l'Ancien Testament, il faisait les choses en préfiguration. Il était obligé de croire dans quelque chose qui allait venir. C'était préfiguratif, puis ils réussissaient à avoir le guérison. Puis nous autres, on a le vrai. Amen. Mais ce matin, on va aller voir un autre exemple de l'Ancien Testament qui nous démontre encore, parce que lorsque il faisait ça, le vase de terre avec l'eau, le sang, puis l'autre oiseau pur, puis les oiseaux purs, ça représente aussi Jésus égorgé. Amen. Et nous autres, on est purs parce qu'on est en Jésus maintenant. Mais voyez-vous, lorsqu'il faisait ça, c'était préfiguratif de la rédemption que nous autres, on a reçue en Jésus-Christ. Amen. Alors, les exemples qu'on voit, c'est des exemples de la rédemption. Alors, cette fois-ci, on va aller dans Nombre 21. Nombre 21, on a Genèse, Exode, Nombre. Amen. Nombre 21, et les Israélites, ils viennent de revenir d'un combat, encore une fois, ils ont vu la main de Dieu. Amen. Puis au verset 4, ça dit, je vais lire tout le texte, puis après ça, on va l'expliquer. Ça dit, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Il dit, « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? » Je ne sais pas combien de fois ils ont dit cette phrase-là dans leur vie. Hein? « Tu nous as amenés ici pour nous faire mourir, tu nous as amenés ici pour nous faire mourir. » C'est ça qui va nous arriver un jour. Amen. « Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. » Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Quand il parle de la nourriture ici, il parle de la manne que Dieu faisait tomber et puis que eux autres amassaient le matin pour se faire des petits pains au miel. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Je vais tout expliquer ça tantôt, OK? Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant. » Et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Alors, lorsqu'on voit cet exemple-là dans la parole de Dieu, je veux qu'on réalise, avant de regarder l'exemple, je veux qu'on réalise une chose qui est bien importante. Comme j'ai dit tantôt, ils viennent juste, si on lirait du verset 1 à 4, il y avait des ennemis qui étaient montrés contre eux et puis ils avaient perdu la victoire parce que, premièrement, on sait combien ils murmuraient. Mais là, ils ont prié Dieu, puis Dieu, il a dit « OK ». Vous revenez à moi, donc je vais vous donner la victoire. Puis là, ils viennent de revenir d'une victoire. Les gens pensent des fois, quand on voit les Israélites dans le désert, que c'était des pauvres gens qui marchaient à journée longue sous la chaleur. Puis là, d'un coup, ils disaient, on est assoiffés, puis on veut de l'eau. Puis là, ça prenait des jours et des jours. Première des choses qu'on doit comprendre, c'est depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte, ils ont toujours une nuée qui les suit. Puis Dieu les guide dans le désert parce qu'il veut les amener à la terre promise. Puis cette nuée-là les protège du soleil durant le jour. Fait que c'est vraiment rafraîchissant de marcher dans le désert. Puis la nuit dans un désert, ça peut même geler. Hein? Ils disent que quelqu'un qui va dans le désert, la nuit, ça peut descendre aussi froid, puis tu peux geler. Il y a même de la glace qui se forme. Et puis, la nuit, ça disait que le nuage se transformait en feu et puis que ça les réchauffait. Ça les réchauffait pendant qu'ils sont là. Puis quand le nuage arrêtait, ils arrêtaient. Puis quand le nuage repartait, ils suivaient le nuage. Ils sont guidés dans le désert depuis qu'ils sont sortis d'Égypte. Ils ont vu tous les miracles, tous les prodiges que Dieu a fait en Égypte. Ils ont sorti la parole de Dieu, on a vu dans les semaines passées, dans les exemples justement, qu'il n'y avait aucun faible parmi eux. Eux qui avaient été en esclavage pendant bien des années, il n'y avait plus aucun faible. Ça veut dire que tout le monde avait été guéri, peu importe l'âge, l'arthrite, l'arthrose, les maladies, les mals de dos, les mals de ci, les mals de ça. Et il y avait tout été guéri, aucun fait parmi eux. En plus de ça, ils ont sorti avec toutes les richesses de l'Égypte, ils ont dépouillé les Égyptiens, ils ont vu les miracles et les prodiges. Ce nuage-là les suit continuellement. Imaginez-vous, le nuage te suit dans le jour, tu es au frais, puis la nuit, Dieu te réchauffe. Quel beau miracle qu'ils ont à tous les jours devant eux. Ils sont arrivés devant la mer rouge, ils ont vu la mer rouge ouverte, ils ont passé à sec. Un coup qu'ils ont eu passé, ils ont vu la mer se refermer sur leurs ennemis. Ils voient miracle. Après ça, il y avait soif. Ils sont arrivés à un endroit. L'eau était amère. Dieu dit, jette un arbre dans l'eau, puis l'eau va devenir saine. Et qu'est-ce que ça veut dire? Une eau qui ne bouge pas, ça représente toujours le monde. L'arbre, c'est la croix qui tombait dans l'eau. Donc, l'eau devenait saine. C'est toujours préfiguratif, les choses qu'il faisait. Et puis, c'était toujours, on va faire ce que Dieu dit. Ça doit vouloir signifier quelque chose. Comprenez-vous? Est-ce que Dieu les avait toujours promis un sauveur? Et puis, Dieu faisait miracle par-dessus miracle. Une autre fois, il manque encore d'eau. Dieu dit à Moïse, fais sur le rocher. Le rocher, c'est le rocher de notre salut, c'est Jésus. Ils ont fessé sur le rocher, des eaux vives ont coulé. L'eau qui se met à couler du rocher. Ils ont vu toujours miracle par-dessus miracle. Là, ils sont arrivés devant des ennemis. Ils ont gagné. Ils ont tout dévoué par interdit. Ça veut dire qu'ils ont réussi à détruire les villes qui les empêchaient d'avancer. Là, ils partent de la montagne, ils avancent, puis tout d'un coup, là, ils deviennent découragés. Ils s'impatientent, puis là, ils parlent contre l'Éternel, ils parlent contre Moïse, et puis vraiment... Vraiment, c'est terrible. Puis même, non seulement ils parlent contre l'Éternel, puis ils parlent contre Moïse, mais là, ils ont décidé qu'ils sont dégoûtés de manger cette nourriture-là que Dieu leur envoie. Il faut faire très attention quand Dieu fait des miracles dans nos vies. Amen. Dieu nous donne un miracle. J'ai déjà vu des gens recevoir, par exemple, en miracle, une auto qui avait besoin. Ça faisait pas deux mois qu'il y avait l'auto, qu'il avait envie de commencer à chioler après l'auto. Hey! Si tu es obligé de mettre une petite réparation de 100 $, c'est rien à comparer à acheter l'auto. Zip de lip, puis promène-toi avec ton auto. Des fois, on oublie le miracle, puis on se met à chioler sur les picadilles qui suivent. Eux autres sont tannés, ils ont dit, on va toujours retourner à notre texte. Ça dit au verset 5, « Et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert, car il n'y a point de pain ?» Et il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ils sont rendus que la provision que Dieu leur donne à tous les jours, ils appellent ça une misérable nourriture. Puis la parole de Dieu nous dit que cette manne-là qui descendait du ciel, puis que les autres amassaient, et puis qu'ils le moulaient, puis ils faisaient le pain et le... moudre, ils faisaient leur pain, ça avait un goût de miel. Puis vous savez très bien que Dieu était pour les emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Dieu les préparait déjà à manger du miel. Mais tu sais, je veux dire, ils appellent ça la misérable nourriture. OK? Alors, vraiment, ils sont rendus qu'ils chiolent même sur la provision de Dieu. Alors, au verset 4, ça dit, on va remonter un peu plus haut, que lorsqu'ils ont parti de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom, le peuple s'impatienta en route. Le mot s'impatienter, quand on va dans le dans l'hébreu et qu'on regarde les autres mots et les autres traductions, c'est vraiment, ils se sont découragés en route. Ils se sont découragés. Savez-vous que le découragement, c'est un signe de doute? Ça, c'est bien facile, parce que la joie, c'est un signe de foi. Le découragement, c'est un signe de doute. Quand tu te décourages, ça veut dire que tu ne crois plus que Dieu va te sortir de ta misère. Ça veut dire que tu oublies qu'il est là, même si vous croyez encore. Mais c'est comme si vous oubliez qu'il est là. On oublie, on se laisse aller, puis on oublie. Puis à un moment, avez-vous déjà remarqué que des fois, on se laisse aller, puis après ça, on dit, « Mais voyons donc, là. Dieu, il était là avant, puis Dieu, il m'a aidé ici, puis on se reprend en main. » Amen. Donc, on a un peu oublié qu'il est là. Mais vraiment, se décourager, c'est un signe de doute. La foi, c'est un signe de foi. La joie, c'est un signe de foi. C'est pour ça que dans Jacques 1-2, c'est écrit, « Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Ils n'ont pas dit « submergés », ils ont dit « exposés », sachant que l'épreuve de votre foi va produire la patience. Amen. Parce que ça prend la patience pour aller chercher jusqu'au bout ce qu'on doit recevoir. Moi, j'ai écrit ça comme ceci. Le doute se décourage, se plaint, puis est triste. C'est exactement ce qu'ils font. La foi se réjouit, remercie, puis est content. Ça, c'est la foi. La foi, lui, il se réjouit, puis il dit non. Moi, je sais que Dieu est là, je sais que Dieu va prendre soin. Amen. Et il remercie, gloire à Dieu, puis il est content. Amen. Mais le doute se décourage, se plaint, et puis vraiment est triste. Alors, c'est pas d'hier que vraiment il se plaignent. Combien? Vous lirez Exode, toute leur sortie, puis quand ils ont marché dans le désert, on dirait qu'ils ont marché pendant 1000 ans à les écouter parler. Et puis, ils ont été 40 jours, puis ils étaient déjà rendus, là, à la place où ils peuvent aller conquérir. Miracle par-dessus miracle, ils ont vu Dieu à l'œuvre. C'est tout frais. Ils ont tout douté, sauf deux, Josué puis Caleb. Amen. Ils n'ont pas voulu rentrer. Mais là, après ça, par exemple, Dieu, il a dit, ça fait assez longtemps, avec tous les miracles que j'ai faits, vous allez errer dans le désert 1 an pour chaque journée que vous avez mis à explorer le pays. Ils avaient exploré le pays pendant 40 jours, alors ils ont erré pendant 40 ans. Mais je peux vous dire que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils se plaignent, puis pourtant, la main puissante de Dieu a toujours été là. Et puis, vraiment, ce qu'ils font, où ils sont rendus là, dans l'exemple qu'on est en train de lire, c'est qu'ils ont abusé de la patience de Dieu, puis des compassions de Dieu, puis des bontés de Dieu. Là, ils ont comme dépassé la limite, si vous voulez. Amen. Avec tous les miracles que Dieu y avait fait au milieu d'eux, ce sont eux-mêmes qui ont baissé, qui ont enlevé les barrières de protection qui étaient autour d'eux. On va continuer à lire. Alors, vraiment, ils sont dégoûtés de cette misérable nourriture. Alors, au verset 6, ça dit, « Mais je veux que vous compreniez une chose. Dans l'Ancien Testament, quand ça a été écrit dans la langue originale, il n'y avait pas de mot pour dire « Dieu était obligé de permettre ». Ça n'existait pas dans le langage. Alors, c'était « Dieu y envoya, Dieu fit ça, Dieu dada ». C'était sec, mais ce n'est pas comme ça que ça devrait être. Je le dis tout de suite. Alors, ça dit, « Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. » La vérité, c'est ceci, c'est que Dieu a été obligé de laisser les serpents venir. Premièrement, dans le désert, il y a toujours eu des serpents puis des scorpions. Toujours. Ça, c'est dans le désert, c'est là. Pourquoi qu'il n'y en a jamais eu avant? Parce que Dieu protégeait son peuple. La nuée était là, les miracles étaient là, puis Dieu est avec eux. Mais là, ils se plaignent, ils chialent contre Moïse, ils chialent contre Dieu, ils chialent tout le temps, puis on n'entend jamais, dans tout le temps qu'ils sont dans le désert, qui ont dit, on va juste prendre un temps pour remercier Dieu. Jamais. Puis là, Dieu vient de lui donner encore une victoire. Puis au lieu de cela, ils sont découragés. C'est comme s'ils se disent, « Mais là, on va-tu être obligé de passer toujours par des temps durs? Puis on va-tu toujours être obligé de prier Dieu pour qu'il nous sorte de nos misères? Puis quand est-ce qu'on va sortir d'ici? À part de ça, tu nous as-tu emmené ici pour mourir dans le désert? » Et puis là, ils ont parlé contre Dieu, ils ont parlé contre Moïse. Et puis à part de ça, ils ont dit, « Pas rien que ça pour de ça. Tant qu'on en mette, on va en mettre. On est tannés de manger, qu'est-ce qu'il nous donne? » Bien, Dieu dit, « Si les miracles que je fais, vous en êtes tannés, je vais me retirer. » Vous savez, Dieu, c'est un gentleman. Combien de vous, si vous faites quelque chose pour quelqu'un, puis vous en faites, puis vous en faites, puis vous en faites, puis là, la personne est rendue qu'elle chiale contre vous, qu'elle chiale contre ci, puis elle chiale contre tout, puis tout ça. Qu'est-ce que tu fais à un moment donné? Tu te retires. C'est exactement ce que Dieu a fait. Puis Dieu est un Dieu juste. Puis Dieu serait injuste de prendre son peuple, parmi lequel il fait tant de miracles, puis son peuple, au lieu de l'honorer, va passer son temps chialer, puis Dieu continue à faire des beaux miracles pareils. Dieu serait un Dieu injuste. Savez-vous que je méditais là-dessus, puis je pensais, même ce matin, aux autres nations qu'il y avait sur la terre. Est-ce que vous savez, quand on regarde, exemple, en Égypte, lorsqu'ils ont sorti de là, il y avait toutes sortes d'idoles avec des têtes de diables, puis toutes sortes de choses. Puis eux autres, ils vénéraient, puis ils honoraient là, ces choses-là. Quand tu penses à ça, je regarde dans le monde des fois un gros Bouddha là, avec le nombril, là, ça m'impressionne bien gros, là, tu sais. Et puis le monde, ils vénèrent, puis le monde a peur. Le monde a peur de déplaire à ce Dieu-là qui n'existe même pas. C'est des faux dieux. Ils ont peur de le déplaire. Pouvez-vous imaginer, là, Dieu, il regarde les autres nations qu'il y a sur la terre, et puis comment eux autres, ils vénèrent, puis ils honorent, puis ils craignent de déplaire à leur Dieu. Puis lui, Dieu, le créateur de l'univers, celui qui prend soin de son peuple, celui qui est puissant, et puis qui les sort de l'Égypte avec tant de puissance, tant de miracles, qui prend soin d'eux, puis eux autres, ils ne l'honorent pas, puis ils ne le vénèrent pas du tout. Ils chialent, ils chialent, ils chialent, puis ils chialent, puis ils chialent, puis ils murmurent, puis ils sont découragés, puis ils s'impatientent, puis ils chialent. Puis que Dieu dirait, « Oh, je vais continuer de les protéger pareil. » Je pense que la parole de Dieu dit, nous, dans le Nouveau Testament, de ne pas abuser de la grâce de Dieu. Mais je pense que c'est exactement ça. Ils ont abusé de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de la patience de Dieu. Dieu, il est patient. Dieu, il est bon. Dieu se met pas en colère. Dieu, alors ce que Dieu a fait, il a dit, vous êtes tannés des miracles que je fais. Dieu est un gentleman. Il s'est reculé. Fait qu'il a ôté la barrière de protection. En ôtant la barrière de protection, ils sont devenus juste d'eux-mêmes un peuple dans un désert. Qu'est-ce qui est arrivé? Les serpents sont arrivés. Les scorpions, les serpents sont arrivés. Le serpent, c'est préfiguratif aussi dans cette histoire-là du diable. Amen. Alors, les serpents sont arrivés pour se jeter contre eux. Oh, gloire à Dieu. Bien, pas gloire à Dieu, mais en tout cas. Mais Dieu serait vraiment injuste. Combien de vous, vous trouveriez ça injuste si un de vos enfants, vous en faites, non seulement il n'est pas reconnaissant, il est rendu qu'il chiale tout le temps, non seulement il chiale, mais il est rendu que qu'est-ce que tu fais, il chiale là-dessus aussi. Ben là, ton gâteau, savez-vous, j'ai justement un exemple de ça. Je connaissais une madame qui était mariée avec un militaire à Winnipeg. Et puis, cette femme-là, c'est elle qui m'a aidé le plus pendant que je vivais dans la peur. Et puis, je pouvais pas croire comment cette femme-là pouvait m'aider. Puis, son mari, il a triché, puis tout le kit. Et puis, il était vraiment, mais vraiment méchant. Et puis, un jour, il revenait d'un fin de semaine parce que lui, il était aussi tout équipé pour la chasse et la pêche et tout. Alors, il revenait d'un fin de semaine, puis il avait sa parade le lendemain. Puis, sa femme, pour y faire plaisir, j'ai jamais vu une femme comme ça. Gloire à Dieu. Et puis, elle lui avait tout arrangé son uniforme. Elle avait tout pressé, tout prêt, parce qu'il arrivait tard. Toutes ses affaires, ses souliers étaient spités, tout ça. Mais elle avait fait une erreur. Le name tag, elle ne l'avait pas mis sur le bon bord. quand il est arrivé dans la maison, il était justement avec un de ses chums. T'as pas de cervelle? T'as jamais remarqué ça, toi, là? Que le nom, il va sur ce bord-là? Oh, 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 il n'était pas marié avec moi! J'aurais tordu. Mon mari, il a voulu au début. Il a dit, je vais te montrer comment spitter les bottines. J'ai dit, je vais te montrer aussi que tu es capable de le continuer de le faire. OK? Gloire à Dieu. Amen. Mais vraiment... Comment insultant. En tout cas, l'autre gars qui était avec, lui, il a tombé sa tomate. Il a dit, mais t'es malade. Et j'aimerais ça, moi, arriver chez vous. Chez nous, ma femme m'aurait fait ça. Mais voyez-vous, c'est dans un sens, c'est juste un exemple dans le naturel qu'on a envie de fuir. Les griffes ont envie de sortir. Pouvez-vous imaginer ce peuple-là que Dieu sort de leur misère puis Dieu fait miracle par-dessus miracle par-dessus miracle par-dessus miracle. Et puis Dieu, il dit, il chiale même des miracles que je fais pour eux. À tous les jours, je leur donne, durant le temps qu'ils sont dans le désert, ils chialent encore. Alors Dieu dit, s'ils n'apprécient pas leur Dieu, bien leur Dieu va s'enlever. Amen. Dieu, il met pas des choses méchantes. Il fait juste se retirer. Moi, vous dis, juste une chose en passant. Si Dieu se retirait de nos vies présentement, nous, on l'a fait le Seigneur de notre vie, mais s'il ferait juste se retirer, puis aujourd'hui, il dirait, ma protection est plus sur vous, ma bénédiction est plus sur vous, il n'y a plus rien. Je vous lâche à vous-même. Il n'y a plus aucune prière qui va fonctionner pour vous pendant une journée. Vous regarderez tous les accidents, les ci, les ça, toutes les affaires qui se passeraient dans nos vies. Moi, j'ai hâte d'arriver au ciel pour que Dieu fasse une vidéo de ma vie puis il dise, gars, tu t'en allais ce chemin-là, j'ai arrêté ce char-là parce que la protection était sur toi puis je l'ai empêché de foncer sur toi. Moi, vous dire quelque chose, c'est réel, hein? C'est réel. Dieu est réel puis il est vrai. Alors, Dieu, il aurait été injuste. Imaginez tous les faux dieux, il aurait dit, as-tu vu ça, toi? As-tu vu ça, tous les miracles que le Dieu fait dans leur vie? Et puis, ce monde-là, ils chialent encore. En tout cas, ils l'ont, le Dieu. Non, Dieu n'est pas injuste. Alors, Dieu, il s'est tout simplement retiré. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les barrières de protection, ils ont descendu. Puis là, les serpents sont arrivés. Amen. Le serpent, comme j'ai dit, c'est un exemple du diable pour nous, dans le Nouveau Testament. Amen. Et puis, je vais juste aller à 1 Pierre 5-8, parce qu'il faut que... Quand j'ai une audience qui tire, là, on pourrait rester ici jusqu'à 11h30. Hein? 1 Pierre 5-8, ça dit « Soyez sobre, veillez ». Qu'est-ce que ça veut dire « Soyez sobre, veillez » Ça ne veut pas dire « On se prive tout d'une bière puis un verre de vin ». Ce n'est pas ce « sobre-là » qu'ils veulent dire. Ça veut dire « Soyez alerte à propos de ce qui concerne Dieu ». Connaissez la parole de Dieu, connaissez, veillez. Veillez, ça veut dire soyez en prière, soyez des gens qui êtes continuellement en alerte à propos de qu'est-ce que Dieu peut faire dans votre vie. Parce qu'il dit pourquoi? Parce que votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion, rugissant. Il a dit comme un lion, il n'est pas un lion, il est une souris avec un microphone. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Savez-vous pourquoi il rôde comme ça puis il cherche? Il attend juste que quelqu'un ne parle pas comme il faut, se mette à chioler, à murmurer, se mette à douter, puis aussitôt qu'il voit une porte, il va dévorer. La parole de Dieu nous dit que la mort et la vie est au pouvoir de notre langue. On peut donner vie à nos choses ou on peut donner la mort. Si une personne, elle chiale tout le temps, elle élève toujours des choses négatives, lui, il rôde puis il cherche, il attend. Et puis, s'il y a une porte ouverte, il rentre. Amen. Alors, vraiment, on va continuer à lire au verset 7, ça dit... Fait que Dieu, il a dit, je vais me retirer d'abord, puis je vais les laisser à leur misère dans le désert. Fait que là, les serpents sont arrivés. Alors là, quand les serpents sont arrivés, ça dit, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. Au moins, il y a une chose, hein? Ils savent se repentir de temps en temps. Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents-là. Alors, la bonne nouvelle, c'est que quand on se repent, Dieu est fidèle et juste. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 1:9, il est fidèle si on confesse nos péchés. Il est fidèle et juste de nous pardonner tous nos péchés. Alors vraiment, ce qui sont arrivés, c'est qu'ils ont confessé. Ils ont confessé exactement ce qu'ils ont fait. On a parlé contre l'Éternel puis contre toi. Fait que là, il a dit, prie Dieu, parce que c'est Moïse qui est comme le pasteur en réalité, et puis qui va devant Dieu, puis qui reçoit la parole de Dieu pour le peuple, fait qu'il est allé prier pour eux autres. Fait que Moïse a sûrement dit, garde Père, ils se repentent. Alors, qu'est-ce que Dieu lui a dit de faire pour que ça l'arrête, qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors, à cause du péché qu'ils ont fait, de l'exagération et de l'abus, là, ils se sont repentis. Dieu leur a montré que la repentance, il y a quelque chose qui doit être fait pour que Dieu puisse agir. Et voilà ce qui doit être fait. Alors, au verset 8, ça dit, « L'Éternel a dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Alors Moïse fit un serpent d'airain, le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Ça ici, le verset 8 et 9, c'est une préfiguration de la rédemption que nous avons en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que Dieu lui disait de faire vraiment? Voici l'exemple qu'on va regarder ce matin. Dieu dit, tu vas faire un serpent d'airain. Un serpent brûlant, c'est un serpent d'airain. Alors, le serpent représente le péché. Et puis, pourquoi qu'il le faisait en airain? On a prêché justement dimanche, on ne remplacera pas l'or par de l'airain. Mais, premièrement, il n'y en a plus d'or. Là, il n'y a pas le temps de remonter en Égypte pour aller chercher de l'or. Là. Il avait dépouillé les Égyptiens. Puis eux autres, c'était fait un veau pendant que Moïse était sur la montagne. Il n'a plus. Fait qu'il a pris ce qui ressemblait à de l'or. C'est merveilleux, hein? Fait qu'il a pris l'airain. L'airain qui brille, ça représente la gloire de Dieu. Ça représentait Jésus. Puis il a dit, mets-le sur une perche. Une perche représente la croix. Fait qu'il dit, mets-le là. C'est une préfiguration du péché que Jésus a porté à la croix. Puis il dit, s'il le regarde, et c'est ça qu'il a dit, il dit, quiconque aura été mordu et regardera, conservera la vie. Alors, c'est exactement ce qu'il a fait. Alors, c'est une préfiguration de nous autres. On regarde Jésus qui est la gloire de Dieu. Amen. La parole de Dieu dit dans 1 Jean 1:14 que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de gloire. Alors la gloire, le brillant, le rein, c'est Jésus qui a porté nos péchés sur la croix. Ça veut dire qu'eux autres, ils faisaient une préfiguration de qu'est-ce qui allait venir un jour, puis ils seraient guéris. Fait que pouvez-vous imaginer comme si ici ce matin, on ferme les portes puis on lâche à peu près 5-6 serpents dans place, OK? Qui peuvent nous mordre puis on peut mourir. J'imagine que ça va être le free-for-all, OK? On va regarder s'il n'y a pas un autre trou par lequel on peut sortir. On va monter sur nos bancs et puis quand on va voir que le serpent est là-bas, on va courir par là. Quand on va voir qu'un autre serpent est là, on va courir par là. C'est le free-for-all. Alors, pouvez-vous imaginer que là, dans le camp de tous ces Israélites-là, les serpents ont été lâchés lousses. Dieu a enlevé sa protection, puis les serpents ont été lâchés lousses. Là, la femme est après cuisiner, et puis à côté de son chariot, et puis les enfants jouent, puis un moment donné, elle entend crier, puis un enfant qui vient de se faire mordre. Là, elle panique, le chariot, elle lâche ses affaires, le feu prend dans le chariot, elle court par là. Là, elle entend, il y a un autre qui crie par là, parce qu'il était après bûcher, et puis là, il vient de se faire mordre, puis il y en a un autre, puis le monde, ça crie partout. Il y a du feu partout, les chaudrons volent, tout le monde court, ils ne savent pas s'ils doivent aller par là ou par là, parce que des serpents, il y en a partout. Là, la panique est prise. Fait que là, ils n'ont pas le choix. Ils ont dit, Moïse, prie. OK, on voit que ça ne marche plus notre affaire. Là. On n'est plus sans protection. Ça fait que prie Dieu. On ne parlera plus contre Dieu. Yeah, right. Non, mais en tout cas. Et puis, prie Dieu. Puis là, Moïse, Dieu, il va devant Dieu. Puis là, les serpents continuent, ces autres-là. Dieu, il a dit, OK, ils ont fait un péché. Bien, il faut que le péché s'est cloué à la croix. Fait qu'il dit, tu vas faire un serpent d'airain, et puis tu vas le mettre sur une perche, et puis ça représente qu'est-ce que nous autres, on vit dans le Nouveau Testament. Comme j'ai dit, l'Ancien Testament, il est expliqué dans le Nouveau, mais le Nouveau Testament, il est aussi contenu dans l'Ancien, on peut le retrouver. Amen. Alors, il dit, quiconque le regardera aura la vie sauve. Le regarder, quand on va dans ce mot-là, dans l'hébreu, ça veut dire un regard fixe, constant puis absorbant. Vous savez, si on a un pays, ils font les annonces à la télévision, là, du papier essuie-tout, le Scott Towel, là, puis lui, il absorbe. Ça veut dire que tu es absorbé par ça. Ça veut dire que là, Moïse, ils ont vu, Moïse, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Puis là, Moïse, là, il voit une grande perche, puis il voit un serpent en airain qui brille. Amen. Fait que là, ils sont là. Là, les serpents se promènent encore parce qu'il dit, si quelqu'un est mordu, puis il regarde le serpent d'airain, il va conserver la vie. Ça veut dire que là, tu es là, tu ne peux pas regarder au serpent qui s'en vient là, puis paniquer. Puis même à un moment donné, il commence à frôler ici alentour. Puis là, à un moment donné, tu te sens mordre. Tant que tes yeux sont sur la rédemption, tu conserves la vie. Ça veut dire que là, il a fini de mordre, il est parti, puis là, peux-tu enlever mes yeux 2 secondes? tu conserves la vie. Pouvez-vous imaginer l'intensité? Mettez-vous dans le contexte, là, l'intensité de la chose. Tout le monde qui avait les regards sur Jésus, ça veut dire qu'il arrêtait de regarder le symptôme. Même si ça passe à côté, c'est froid, tu sais qu'il est là. Il dit, si ils ont les yeux absorbés juste sur la rédemption, ils ne mourront pas de la morsure qu'ils auront reçue. Alors, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Puis le monde ne sont pas morts. Puis après ça, Dieu a remis sa protection parce qu'il s'était repenti. Amen. Alors, vraiment, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans Jean, a inspiré Jean à écrire ceci. Allez dans Jean 3. Dans Jean 3, puis je vais lire du verset 14 à 16. Ça dit, au verset 14, Jean est en train d'écrire, puis il écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, puis voici ce qu'il écrit. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Wow! Ça ne peut pas être plus précis que ça. « Alors, quiconque croit en lui, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Wow! Jésus lui-même fait la comparaison du serpent dans le désert avec sa vie à lui qu'il allait donner. C'est vraiment spécial. Si on est capable de voir que le monde était guéri, quand Dieu y a enlevé sa protection, ce qui tuait le monde est venu. Si Dieu enlève sa protection sur nous, ce qui tue le monde va venir. Mais si nos regards sont sur Jésus, si nos regards sont sur ce qui a été fait à la croix il y a 2000 ans passés, si on comprend les voies de Dieu, même dans Hébreu, ça nous parle que Dieu il a dit, la parole leur fut annoncée. Comment la parole leur fut annoncée? Par toutes ces préfigurations-là, Dieu lui annonçait la parole. Puis ça dit, mais ils n'ont pas connu mes voies. Ils n'ont pas reconnu ce que Dieu y était en train de leur dire. Mais ça dit, vous autres, pendant que c'est possible d'entrer dans son repos, endurcissez pas vos cœurs comme eux autres. Autrement dit, comprenez les voies de Dieu. Dieu nous veut guéris. Amen. Dieu, par la foi, en ayant les yeux sur la perche, sur le serpent des reins, sur la gloire, il était guéri. Pouvez-vous imaginer, c'était juste des choses dans le naturel qui préfiguraient, qui démontraient. C'est pour ça que quand Dieu nous dit à nous de prendre la communion, les gens prennent ça. Ils attendent rien. Ils ne savent même pas ce qu'ils font, mais c'est préfiguratif, ça aussi. La communion, ça démontre que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, il a été brisé, puis son sang, il a été versé. Puis ça, pour nous, c'est notre rédemption. C'est exactement le secours que Dieu il nous a fait à nous. Amen. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous qui avons le vrai, la gloire, c'est Jésus. Amen. Le serpent, c'est les péchés qu'il a portés en son corps. Amen. Et puis la perche, c'est la croix qu'il a traînée, qui a été crucifiée dessus. Tant qu'on a les regards sur Jésus, on conserve la vie. La seule raison qu'une personne qui est attaquée dans son corps meurt, c'est parce qu'elle arrête de regarder à Jésus. À un moment donné, elle dit, « Ah, c'est trop. » Puis de toute façon, je suis fatiguée, ta-ta-ta-ta, puis elle abandonne. Mais tant que nos yeux sont sur Jésus, c'est pour ça qu'ils disent, tous ceux qui regarderont, tous ceux qui auront le regard fixe, qui seront absorbés par ça, vont pouvoir conserver la vie. Ça veut dire, vous ne regardez plus autour, vous ne regardez plus aux symptômes, vous ne regardez pas ce qui s'élève autour de vous, vous n'écoutez pas les cris que vous entendez, parce qu'il y en a qui ne regardent pas, parce qu'il y en avait qui ne devaient pas regarder. Il y a tout du monde qui ne veulent pas. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui étaient mordus, puis qui tombent à terre, puis toutes ces choses-là. Mais dit tant que vous n'écoutez pas ce qui se passe alentour, que vous ne laissez pas les symptômes qui viennent à vous, mais que vos regards sont sur Jésus, sur le serpent des reins, vous allez conserver la vie. Autrement dit, il dit, je vais vous secourir, mais vous avez besoin de quelqu'un qui traîne votre péché que vous faites depuis longtemps. Vous avez besoin de quelqu'un qui prenne votre place. Donc, on va prendre le péché et on va le mettre là, sous la gloire. Comprenez-vous? Nous autres aussi, on peut conserver la vie parce que Jésus a porté nos péchés. On en revient toujours. Amen. On va terminer avec Hébreux 12. Hébreux 12. Vous savez, Hébreux 12, il a été écrit tout de suite après Hébreux 11. Hein? Vous savez. Tout ça pour vous dire quoi? Que Hébreux 11, c'est le chapitre des gens, des famous people, des gens qui ont réussi des exploits de foi. Noé, Moïse, Abraham, Sarah, Rahab, c'est tous les gens qui ont marché par la foi, qui ont réussi des exploits. Alors, tout le chapitre 11 nous parle des exploits d'hommes et de femmes de Dieu. Le chapitre 12, vous savez, la parole de Dieu a été écrite, pas de chapitre, pas de verset. Hein? C'était des lettres, ça s'écrivait comme ça. Mais pour la facilité d'enseignement, ils ont mis des chapitres et des versets. Comme ça, on peut vous dire, allez au chapitre 12 de Hébreux, verset 1. Amen. Parce que comme ça, on peut, sans ça, on dirait aller à peu près vers le trois quarts du livre, vers la fin à peu près. Vous avez un livre comme le mien, ça doit être en bas de la page. Amen. Alors, ils viennent juste de parler de tous les hommes et les femmes de Dieu. Joseph, Moïse, Noé, Abraham, ils viennent de parler d'eux autres. Puis au chapitre 12, ça continue. Il dit, nous donc aussi. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ou je les appellerais les vétérans, amen. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Dieu y a ouvert une porte, faut courir, amen. ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée, ou on pourrait parler comme l'exemple qu'on vient, afin que vous ne vous impatientiez pas. Amen. Mais il dit qu'il faut avoir les regards sur Jésus. Il ne faut pas mettre nos regards sur n'importe quoi. Sur Jésus. Dieu, dans l'Ancien Testament, il voulait qu'ils mettent le regard sur qu'est-ce que lui avait fait. Mais dans le Nouveau Testament, il dit, vous allez conserver la vie. Jésus a souffert les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Jésus s'est fait pauvre pour qu'on soit enrichi. Jésus a subi le châtiment qui nous donne la paix. C'est toutes des écritures de la parole de Dieu. À la croix, il nous a donné la vie en abondance. Tant qu'on a les regards sur Jésus, on va conserver la vie. Que ce soit dans nos finances, dans nos corps, peu importe. Amen. Alors, est-ce qu'il y a de la guérison dans la rédemption? Oui, même dans l'Ancien Testament. Combien plus que nous autres, c'est pas juste un serpent d'airain en plein milieu de la ville qu'il faut aller mettre nos yeux là-dessus. Amen. Mais à chaque jour, on peut mettre nos yeux sur Jésus. Puis comment on met nos yeux sur Jésus? On regarde sa parole. Amen. On prie. On pense à lui. On médite. Méditer la parole, c'est pas méditer la parole, c'est après qu'on a lu, il se passe des choses dans nos vies, dans la journée, on repense à la parole qu'on a lue le matin. La parole est là dans notre cœur. Il dit que c'est du cœur qu'on croit, c'est pas de la tête. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu n'a pas dit, tout celui qui croira de sa tête. Amen. Parce que notre tête est pleine de folie, elle. Mais du cœur. Tu sais, tu peux dire, dans ma tête, j'ai gros des doutes, mais dans mon cœur, je sais que Dieu est bon. Merci Seigneur. Amen. C'est tout ce qu'il nous demande. Tout ce que vous croirez dans votre cœur. Amen. On va le voir. Amen. Alors, je vais demander aux musiciens, chanteurs, de retourner. Alléluia. Et puis, on va se lever debout. S'il y en a qui ont besoin de l'imposition des mains, on va le faire ce matin. On va aussi prier sur les requêtes. Puis aussi... Excusez. Je prépare toujours des petits linges ici que si vous avez quelqu'un à la maison ou quelqu'un que vous connaissez, vous allez visiter qui est malade, vous pouvez l'apporter, on va prier dessus, puis vous faites juste dire, vous savez, c'est très biblique, on va en parler ça aussi dans les semaines à venir. La parole de Dieu est pleine de révélations de comment Dieu veut qu'on soit guéri. Il y en a une des raisons, c'est toutes les manières qu'il nous a données pour arriver à la guérison. Puis ça, c'en est une. Ça dit qu'il y avait des linges qu'il mettait sur le corps de Paul. Et puis quand il prenait les linges, après ça, il allait les mettre sur les gens. Et puis les gens étaient guéris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous autres, on dépose l'onction de la foi qu'on a, amen, sur le linge. Et vous pouvez le mettre sur des gens. Et je peux vous dire une chose, c'est que j'ai beaucoup de rapports. Comment qu'il y a des gens que leur situation a changé après que les gens ont prié pour eux. Fait qu'on peut prier pour vous ce matin. On va prier sur les requêtes. Et aussi, il y a les linges qui sont disponibles. Fait qu'on va louer. Si vous avez des besoins, avancez en avant, on va le faire.